Alors maintenant, monsieur le député, vous avez remis 50 propositions au Premier ministre et tout bouge en ce moment et certaines de vos propositions sont déjà en cours de mise en œuvre. Donc on attend que vous nous disiez où on en est, quels sont vos espoirs.
D'abord, merci de m'avoir invité. Je dois dire que depuis que j'ai sorti mon rapport, j'ai l'impression que tous les acteurs de l'économie sociale l'ont mis comme livre de chevet pour le lire le soir avant de s'endormir, à tel point que je me pose la question de savoir si on ne confond pas mon prénom avec rapport. C'est vrai, quand j'interroge Internet, que souvent, rapport Vercamer est cité dans toutes les réflexions de l'économie sociale. Je ne savais pas que j'avais fait à ce point un document référence sur ce secteur. Alors, comment ça s'est passé d'abord ? Le Premier ministre m'a nommé parlementaire en mission, à titre bénévole, je le rassure, parce que des gens m'ont déjà posé la question si j'avais eu les mêmes salaires que Mme Boutin. Non. J'ai effectivement fait un travail de 6 mois avec 3 collaborateurs qui m'avaient été fournis par Bercy. J'ai reçu une bonne centaine d'acteurs de l'économie sociale. J'ai fait 4 réunions de travail, 4 groupes de travail qui sont réunis à peu près pendant 2 mois avec à peu près 60 participants et qui a donné ce rapport. Alors, ce rapport, c'est quoi ? C'est d'abord une ébauche de politique générale sur l'économie sociale. Ce n'est pas 50 propositions. La conséquence, c'est 50 propositions, mais c'est bien une ébauche de politique générale sur l'économie sociale, car il ne vous a pas échappé qu'en France, l'économie sociale était relativement méconnue. C'est d'ailleurs un de mes premiers constats, et ça a été remarqué par un certain nombre autour de la table ici, c'est que même les acteurs eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont dans l'économie sociale. Et donc, la lettre de mission du Premier ministre, c'était définir le périmètre de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social, et analyser les freins et essayer de faire des propositions pour lever ces freins de façon à ce que l'économie sociale et l'entrepreneuriat social puissent se développer. Alors c'est pour ça déjà que j'évoque le titre de la mission, ou en tout cas le thème de la mission, parce que vous voyez bien qu'au-delà de l'économie sociale, j'ai dû travailler sur l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire les sociétés de capitaux qui avaient, on pourrait dire, épousé les valeurs de l'économie sociale, celles qui ont été évoquées par Jean-François Darapry, notamment donner du sens à l'activité, la démocratie intérieure de l'entreprise, une échelle de salaire modérée, pas de distribution de profit, enfin, etc., etc., mais j'y reviendrai. Alors j'ai fait 3 grands constats. D'abord, la difficulté du périmètre. Vous vous rendez compte, en écoutant ce qui vient de se passer, c'est que les entreprises de l'économie sociale, enfin en tout cas les structures de l'économie sociale, sont très diverses. Vous avez à la fois la petite association de quartier, comme vous avez la grande mutuelle d'assurance ou bancaire, auquel vous avez peut-être votre compte en banque et vous ne savez même pas que c'est l'économie sociale. Et donc, c'est très divers en taille, c'est très divers en secteur. Vous avez le secteur de l'assurance, le secteur de la banque, le secteur de l'agriculture, le secteur de la service à la personne. Dans le secteur coopératif, vous retrouvez différents secteurs. Vous pouvez très bien avoir une imprimerie en coopérative aussi. Beaucoup de secteurs sont... On vient d'en avoir une avec une SCOP. Hein, donc, on a une diversité très, très importante. C'est une diversité statutaire aussi différente. Vous avez à la fois les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et si je vais plus loin, les entreprises de capitaux qui ont choisi ces sens de valeur de l'économie sociale. Donc c'est très très divers et donc c'est très difficile pour les uns et les autres de se repérer. Pour vous donner un exemple, quand j'ai sorti mon rapport, j'ai été interviewé par FR3 Région Nord-Pas-de-Calais et la journaliste avait fait un reportage sur l'insertion par l'économie, en pensant que l'économie sociale c'était l'insertion par l'économie. Je lui ai dit certes, ça en fait partie, mais c'est bien plus large que ça. Quand je lui ai expliqué ce que c'était, elle ouvrait des yeux comme ça en me demandant est-ce que je dois changer de sujet. Je lui ai dit non, mettez ça parce que vous l'avez préparé et puis je commenterai. Voilà. Et donc vous voyez bien que les gens ne savent absolument pas ce qu'il en est dedans. Ce qui les rassemble, c'est surtout la façon d'entreprendre. C'est essayer de donner du sens à leur activité, essayer de faire que des valeurs très fortes soient mises en œuvre dans leur activité ou dans l'entreprise, en gros ce qu'on pourrait appeler d'utilité sociale ou du fonctionnement social. Et donc c'est pour ça qu'on peut aller un peu plus loin que le problème du statut. Comme je le dis toujours, le statut c'est une présomption, c'est pas une preuve. Il suffit de regarder des grandes banques coopératives ou mutualistes. Vous me direz ce qu'elles ont comme utilité sociale ou fonctionnement social. Parfois on se pose la question quand on reçoit des courriers de leur part. Et surtout elles ont souvent, pas toujours, mais souvent une forte dimension de proximité. C'est ce qui les caractérise beaucoup. Pas toujours, parce que les grandes mutuelles d'assurance, la proximité est un peu moins voyante, mais sur un certain nombre d'activités, elles font œuvre de proximité. Et je rajouterais aussi, c'est un secteur qui peut facilement prendre des sujets nouveaux, des métiers nouveaux, des activités nouvelles, parce que c'est un secteur qui n'a pas besoin, qui ne considère pas le profit comme son essence. Et donc, trois bénévoles, l'association, peuvent prendre une nouvelle activité, un nouveau métier, essayer de le développer. Et donc, il ne faut pas beaucoup de moyens. C'est l'État ou le service public ne peut pas s'en occuper parce que ça ne concerne pas le service public. L'entreprise de capitaux ne s'en occupe pas parce que ce n'est pas profitable. Et donc, l'économie sociale s'empare d'un certain nombre de nouveaux métiers. Et on l'a vu d'ailleurs, notamment sur le retraitement et la collecte des déchets. Ça a été l'économie sociale qui l'a pris. C'est vrai aussi pour le marché de l'occasion. C'est vrai aussi pour le microcrédit. Il y a plein d'exemples comme ça. Deuxième constat, c'est que le secteur... de l'ESS voudrait bien qu'on leur reconnaisse leurs spécificités et qu'on prenne plus en compte leurs préoccupations. Ils sont attachés donc à ce statut, à ce mode d'organisation, à leurs valeurs, et ils voudraient aussi être considérés comme un acteur à part entière de l'économie et pas un acteur entièrement à part. Et ça, c'est très fort. J'ai senti ça dans mes auditions, c'est que tout le monde dit « nous, on fait partie ». De développement français. On fait partie de la méthode de développement de l'économie française. On n'a pas la société de capital, on est une société de personnes, mais on a envie, tout autant que les autres, de développer nos activités et de le faire au service de tous et au service de la nation. C'est donc un souci de ne pas être ghettoisé, mais sans être banalisé non plus, parce que bien évidemment, quand on dit banalisation, on dit dilution et on dit disparition. Ils ont une grande fragilité dans un certain nombre de secteurs, notamment quelquefois dans les statuts, parce que les statuts sont compliqués ou quelquefois ne sont pas reconnus au niveau européen. En matière de financement, c'est surtout vrai pour les associations. En matière de conception de projets, souvent ils ont du mal à trouver des experts, des expertises, parce que ça coûte cher et ils n'ont pas forcément les moyens. Heureusement, les collectivités territoriales, généralement, les aident, mais il y a encore beaucoup à faire. Ils ont aussi des besoins en termes de formation, et souvent les organismes de formation classiques ne forment pas, parce que les OPCA ne considèrent qu'on ne peut pas former des bénévoles, ou l'association n'est pas adhérente, etc., etc. Et puis, surtout, une fragilité dans les structures représentatives, et j'y reviendrai parce que c'est un souci qu'ils m'ont souvent relevé et que je suis en train d'essayer de faire avancer. J'essaie d'aller vite parce que je vois que le temps passe. Le troisième constat, c'est bien sûr qu'il y a des atouts et un potentiel que le secteur donc estime insuffisamment reconnu. Donc, au regard de ses valeurs, au regard de ses principes éthiques, de ses modes d'entreprendre, surtout, ils ne veulent pas être cantonnés au secteur de la réparation, parce que souvent, on a cantonné l'économie sociale et solidaire dans le secteur de la réparation. Ils veulent être une économie responsable et créateur de richesses. Richesses, peut-être pas des richesses matérielles, mais ça peut être aussi des richesses humaines. Et ça leur paraît extrêmement important. Alors, j'ai fait effectivement 50 propositions à travers 4 axes, 4 orientations. Le premier axe, c'est une meilleure visibilité du secteur, et notamment par deux choses qui ont fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, la première, c'est celle de la création de labels. J'ai proposé deux types de labels. Un pour l'entrepreneuriat social, de façon à ce qu'une entreprise de capitaux ne puisse pas se dire entreprise sociale sous prétexte parce qu'elle donne une subvention à son club de foot de quartier. Donc j'ai voulu mettre des règles, dire il faut des règles du jeu bien claires pour que vous disiez entrepreneur social. J'ai dit les règles, c'est pas moi qui les donne, c'est vous qui les fixez en accord avec les secteurs de l'économie sociale et c'est pas vous qui les vous accordez. Ça, c'est les conditions que j'ai mises. Et un deuxième label qui est un label plus transversal sur la finalité ou le fonctionnement social, c'est à eux de le définir, qui serait aussi donné par quelqu'un d'extérieur, mais dont les critères seraient définis par le milieu lui-même, par le monde de l'économie sociale lui-même. Parce que je ne me sentais pas, en 6 mois de temps, capable d'avoir autant d'expérience que mon voisin, qui en a 30. Deuxième axe de proposition, c'est bien sûr accéder aux dispositifs de droit commun. C'est-à-dire, en gros, qu'une entreprise de l'économie sociale ait les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'une entreprise de l'économie traditionnelle ou de l'économie de capitaux. On a vu des quantités de lois sortir où on avait oublié que une société coopérative ne faisait pas de plus-value. Et donc l'OSEO, par exemple, n'intervenait pas en innovation sociale dans la coopérative parce que comme elle se rémunère sur la plus-value, et comme il n'y a pas de plus-value, elle n'intervient pas. Vous voyez, alors c'est tout bête, mais il y a plein de petits éléments comme ça qui ont émergé de mes interventions, enfin mon dialogue. Et j'ai essayé de... Alors, il y a des choses beaucoup plus lourdes et d'autres beaucoup plus légères, mais un certain nombre de propositions pour essayer d'améliorer le fonctionnement de l'économie sociale en termes de droit commun. La troisième axe, j'y vais vite hein, parce que je vois que le temps passe, promouvoir une politique active et d'aide et d'accompagnement qui tienne compte de la spécificité du secteur. C'est notamment le secteur associatif. Alors, c'est aussi vrai pour le secteur coopératif dans un certain nombre de cas. Mais le secteur associatif a des gros problèmes de financement parce qu'elle travaille, elle est financée généralement soit par prestation, soit par subvention. Si les prestations, c'est à peu près stable, même si en ce moment ça bouge beaucoup, sur la subvention, tout le monde sait qu'il y a des gros problèmes. Elles ne sont pas versées en temps et en heure, elles fluctuent d'année en année. Et donc comment voulez-vous qu'un responsable d'association, surtout dans l'aide à la personne, où parfois il y a beaucoup de salariés, puisse faire une politique de long terme lorsque tous les ans, il voit son financement fluctuer. Donc il est très important de travailler sur ça. J'ai fait un certain nombre de propositions dont certaines sont en train d'avancer, notamment celle, par exemple, de la création d'une fondation spécifique pour aider l'association. Le ministre en charge, j'y reviendrai après parce que je vais vous dire quelques nouvelles, mais le ministre en charge a indiqué qu'il allait mettre des crédits pour préfigurer cette fondation. Vous voyez, ça commence. Et puis la quatrième orientation, c'était mieux prendre en compte le secteur de l'économie sociale dans l'élaboration des politiques publiques, d'abord en ayant un secteur à Bercy, parce qu'il n'y en a pas, ensuite en essayant de renouveler le Conseil supérieur de l'économie sociale, en remettant les mêmes acteurs que ceux que j'avais rencontrés, qui ont tous dit à la fin de mes entretiens, c'est super, il y a des années qu'on aurait dû faire ça, parce que parfois on ne s'était jamais rencontrés, et on a découvert l'autre. Et des gens de l'administration ont dit, on ne savait pas qu'il y avait ce problème-là. On a découvert, par exemple, qu'on avait oublié les mutuelles françaises dans la directive européenne, vous voyez. Donc c'était embêtant, parce qu'à la fin de l'année, vous n'auriez plus de mutuelle de santé. Et on s'en est rendu compte, tout bêtement, en se mettant autour de la table. Et donc, j'ai proposé ça, et ce Conseil supérieur de l'économie sociale s'est réuni pour la première fois il y a 15 jours maintenant. Et donc, maintenant, est en train de se mettre en route. Alors, j'ai passé, bien sûr, vous avez bien vu que je n'ai pas cité mes 50 propositions, parce que sinon, j'en avais pour l'après-midi ou la soirée. Simplement, vous dire que ce qui a été pour l'instant repris en compte. D'abord... le Conseil supérieur de l'économie sociale, je vous en ai parlé. À l'intérieur de ce Conseil supérieur de l'économie sociale, il y aura trois commissions, dont une qui s'appelle la Commission Europe, qui va avoir pour objectif de réfléchir avec Michel Barnier, qui est, vous le savez, commissaire européen au commerce intérieur, qui est en train de travailler sur ce qu'on appelle un Social Business Act, de façon à effectivement travailler avec lui, de façon à ce que l'économie sociale en France ne soit pas oubliée dans la grande politique qui va être mise au niveau européen. Et je pense que c'est important parce que si on ne fait pas ça, bien évidemment, on risque de disparaître parce que les directives, vous savez, 80% des lois françaises sont les traductions des directives européennes. Donc si on ne s'y prend pas à l'échelle au-dessus, bien évidemment, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Il y a un groupe de travail aussi qui a été mené, qui va être piloté par Claude Alfandéry, qui est bien connu dans le secteur de l'économie sociale, puisqu'il travaille là-dedans depuis des années, sur le problème du label. Donc il va travailler, je suppose, avec les acteurs habituels de cela pour essayer de réfléchir à comment on peut mettre ces labels, qui, moi, je vous le précise, pour moi, le label, c'est surtout un étendard. C'est dire, nous, on a des valeurs, l'économie sociale, nous, on a des valeurs, et on tient non seulement à les garder, mais à les faire diffuser, parce que ça m'apparaît important dans une époque où la financiarisation de l'économie a pris toute sa place, de revenir à donner du sens à l'activité économique, c'est-à-dire au sens littéral du terme, au sens originel du terme, c'est-à-dire travailler pour le développement de la nation et surtout des gens qui la composent, et non pas simplement de certains fonds de pension américains. ou pas forcément américain d'ailleurs. Quatrième point qui a bougé aussi, c'est la territorialisation. Dans la visibilité, j'avais non seulement le label, mais j'avais aussi tout un réseau territorial. On sait qu'il y a un certain nombre de CRES qui existent. Ici, en Rhône-Alpes, c'est fort développé. Dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, mais il y a des régions dans lesquelles il n'y a pas de CRES ou très peu développées. Et puis, il n'y a pas non plus d'agence régionale de développement pour l'économie sociale. Il n'y a pas d'observatoire. Et donc, j'ai proposé qu'on développe un véritable réseau pour développer l'économie sociale en territoire. Ça avance, puisque le ministre a proposé 4 régions test. Alors, je ne me souviens plus les régions, aussi, elles sont notées. Rhône-Alpes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Nord-Pas-de-Calais. Ça va, j'avais noté. Donc, Rhône-Alpes est dedans, et Nord-Pas-de-Calais aussi, ça ne vous étonne pas, puisque le ministre en charge, c'est Marfil Daubresse, il est du Nord, et moi-même aussi. Et puis, enfin, vous le savez, il y a 100 millions d'euros qui ont été développés dans le grand emprunt, qui vont servir à amorcer un certain nombre de dispositifs nouveaux. Alors c'est sur ma proposition c'est un cofinancement en quasi-fonds propres, c'est-à-dire ce sont des fonds qui devront être remboursés, parce que d'abord c'est de l'emprunt, et donc si on veut faire du développement durable, on commence déjà par rembourser nos dettes. Hein, donc j'ai considéré que si c'était un emprunt, il fallait rembourser un jour ou l'autre. Et donc il était important que ce ne soit pas de la subvention à fonds perdu, et par contre que ça puisse développer des financements complémentaires de collectivités territoriales ou d'autres structures pour développer des nouveaux projets, notamment des incubateurs territoriaux. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Kretschmar, c'est que j'ai proposé notamment les pôles de alors moi je vais pas appeler ça pôle de coopération parce que j'avais pas ce nom là, mais que dans les pôles de compétitivité il y ait bien l'économie sociale et l'économie de capitaux qui fonctionnent ensemble et en complémentarité, parce que ça peut vraiment être complémentaire et ça peut vraiment faire des effets de levier de l'un vers l'autre, parce que l'objectif c'est quand même de créer de l'emploi sur les secteurs. Voilà, alors mon rapport, ce n'est qu'une étape, parce qu'après 6 mois de travail, j'ai pas fait autant que M. Drapry, qui en a fait 30 ans. Je sais qu'il fait bouger un peu les choses. Tout ne sera pas applicable, tout ne sera pas appliqué. Ce qui est important, c'est que les gens se mettent autour de la table et qu'on essaie de faire avancer les difficultés et les lever et pour essayer d'avancer. Moi, ce qui m'a surtout frappé dans ce rapport, c'est que j'ai rencontré des gens extrêmement motivés, des gens de conviction qui se battent pour un idéal. Et ça m'a marqué, je peux vous le dire.
Merci, monsieur le député. Maintenant, nous attendons tous que, au prochain remaniement, vous soyez nommé ministre de l'économie sociale et solidaire.
Il n'y a pas de danger.
Pour porter les étapes ultérieures. Maintenant, nous allons passer la parole à la salle. Et pour terminer, je demanderai à chaque intervenant de dire son dernier mot par rapport à cet après-midi. Alors, quand vous prenez la parole, merci de nous dire qui vous êtes et de poser clairement une question. Donc, monsieur, là, quelqu'un vous apporte un micro.
Merci. Bonjour, Bernard Léon. Je suis un bénévole dans une association d'ingénieurs de l'environnement. Lorsque j'ai vu et lu attentivement la lettre de mission qui vous avait nommé, monsieur le député, j'avais bien remarqué qu'on parlait de SS, laquelle a 150 ans d'histoire, en quelque sorte, pour faire vite, et le mélange avec le concept anglo-saxon du social business, traduit en français par entrepreneuriat social. Ce qui ne manque pas de poser problème, car le social business en France, j'attends qu'on m'en montre la réalité profonde. Jusqu'à maintenant, lorsqu'ils se réunissent et donnent des exemples, ils viennent plus souvent d'exemples issus de l'USS que d'issus du propre social business ou entrepreneuriat social. Donc, j'ai été étonné dès le début de cette confusion créée par le mélange de ces deux concepts, et je serais ravi d'être éclairé sur la façon dont vous avez ou dont vous avez pu vous sortir ou ne pas sortir de la confusion créée par la propre lettre de mission qui vous avait été confiée.
Alors, voilà une très bonne question. Merci de la poser tout de suite. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir envie de répondre. Qui veut commencer, monsieur le député?
Oui, alors moi j'ai essayé de dépasser ça parce que J'ai bien senti, vous savez, j'ai rencontré des quantités de gens très divers, aussi divers que l'économie sociale, et donc où des gens étaient pour, d'autres étaient contre. Ce qui m'a fait surtout plaisir, je vais vous dire, c'est quand j'ai reçu un courrier après avoir rendu mon rapport, parce que j'ai rendu mon rapport le 30 avril, mais ma mission s'arrêtait le 31 mars, enfin le 2 avril exactement. J'ai reçu le 16 avril un courrier signé par le CGS et par le MOUVES, c'est-à-dire le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, me disant, écoutez, on va regarder, on va travailler ensemble, on va regarder. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que les valeurs qui sont portées par l'économie sociale se diffusent partout. Et ne pas ghettoiser un secteur qui me paraît être emblématique et fort de sens dans un monde qui en perd beaucoup. Et je trouve que ce serait un crime de ne pas utiliser ce sens et ces valeurs portées par ce secteur qui représente à peu près 10% de l'économie et 10% du monde salarial, et pas utiliser ce sens des valeurs pour essayer de diffuser, d'essaimer ces valeurs dans l'économie traditionnelle ou classique ou de capitaux, on l'appelle comme on veut, ce serait un crime de ne pas le faire. Alors, on peut aussi ghettoiser en disant non, on va garder. Moi, ce n'était pas mon sens. Voilà, c'est comme ça que je m'en suis sorti, en essayant de dire, en faisant bien la différence des choses. D'ailleurs, vous avez bien vu que j'ai fait deux labels, un sur le mouvement des entrepreneurs sociaux et un sur l'économie sociale, qui n'est pas tout à fait le même, de façon à ce qu'ils puissent essayer de trouver des valeurs communes et pourquoi pas un jour se rassembler ou en tout cas avoir un label commun, pourquoi pas. Mais je n'ai pas fait ce pas-là. Ne pas décourager ceux qui ont envie de donner un peu de sens à leur action, de le faire. D'ailleurs, quand je discute avec les universités, ou en tout cas les universités qui ont créé une chaire de l'économie sociale, ils me disent qu'il y a près de 20% des étudiants, même quelquefois plus, qui choisissent l'économie sociale et solidaire dans leur chaire, ce qui prouve bien qu'il y a un potentiel au moins de 20% de salariés en France qui pourraient choisir ce secteur. Aujourd'hui, on n'est qu'à 10. Donc il y a encore des marges de progression.
Cyril, quelle est votre réponse à la question ?
C'est une question qui agite beaucoup le milieu de l'économie sociale et solidaire, qui est aujourd'hui beaucoup plus vaste et organisé malgré tout que le milieu de l'économie des entrepreneurs sociaux. Moi, je souscris à la réponse de Francis Vercamer. Je crois que l'important, c'est effectivement, je me répète un peu, de transformer l'économie au bout du compte. Je crois que malgré tout, il faut prendre garde à un risque, c'est d'aspirer le fait associatif autour d'une réflexion qui voudrait globalisante sur la question de l'économie. Malgré tout, je le disais tout à l'heure, je me répète encore une fois, il y a beaucoup de structures associatives qui ne se reconnaissent pas dans l'économie sociale. Il faut aussi leur reconnaître ce droit, ce qui veut dire que nous devons, en France et en Europe, nous doter d'une vraie politique de la vie associative qui est d'un autre ordre, qui peut être tout à fait complémentaire d'une politique de l'entrepreneuriat social et du développement de l'économie sociale et solidaire, mais qui est bien d'une autre nature. Et de ce côté-là, je crois que les temps sont difficiles. Il faut vraiment mobiliser les acteurs dans ce domaine, que l'État, les collectivités, les mouvements de l'économie sociale portés par l'histoire associative s'organisent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est beaucoup plus organisée à l'échelle européenne qu'à l'échelle française sur ce plan.
Merci. Jean-François, une réponse comme tu veux.
Oui, rapidement. Alors moi, je suis un petit peu plus mesuré, quoi, hein, même si je suis d'accord avec les propositions, parce qu'il faut avancer concrètement. Mais en même temps, je pense qu'il y a un déficit de réflexion pour l'instant sur l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que c'est vrai, l'économie sociale, comme les statuts d'ailleurs, c'est une conquête sociale. Ouais. Voilà. Alors que l'entrepreneuriat social, c'est fondamentalement un projet de multinationale qui, par le biais de la venture philanthropie, réinvestit l'argent en marchandisant un objet social et environnemental. C'est quand même très très différent. Alors en même temps, faut être prudent parce que évidemment que ça va amener nécessairement des entrepreneurs sociaux, des jeunes qui sont dans les écoles de commerce, des universités, etc., qui ont envie de donner du sens à leur travail, qui va les amener sur ce terrain des valeurs de l'économie sociale, ça c'est indéniable. Mais dans le cadre d'un projet politique qui est tout à fait distinct de celui de l'économie sociale. Je crois qu'il y a un objet de conquête là, hein, pour l'économie sociale, c'est à faire la preuve de sa pertinence et de montrer les contradictions. En fait, il y a une contradiction qui est inhérente à l'entrepreneuriat social, qui est de dire on veut reprendre, en gros, si je suis ce qu'a dit Francis Vercamer, reprendre les valeurs de l'économie sociale, mais en faisant un business, c'est-à-dire dans lequel les bénéficiaires ne sont pas les sociétaires. Or, le propre de l'économie sociale, l'émancipation que permet l'économie sociale, c'est précisément celle qui provient de la double qualité, c'est-à-dire le fait que les bénéficiaires économiques de l'activité soient aussi les sociétaires, c'est-à-dire un pouvoir politique sur l'activité. Donc c'est cette question-là qu'il va falloir travailler, mais il me semble qu'il n'empêche que concrètement il faut avancer, et que je crois que on ne peut pas éviter l'essor de l'entrepreneuriat social, c'est ça aussi. Et c'est, quelque part c'est bien, sauf qu'il y a une instrumentalisation.
Merci pour cette parole très claire. Alors, monsieur avait demandé la parole. Oui, madame, au milieu, ici.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de guéotisation.
Vous pouvez nous dire qui vous êtes ?
Ah oui, Jean-Yves Royer, je suis bénévole dans quelques associations. Mais notamment, je voulais intervenir sur la guéotisation et deux expériences que j'ai eues de contact avec des étudiants qui sont dans des domaines de formation à l'économie sociale, d'un côté pour l'économie et de l'autre côté pour les relations humaines. Personnellement, je trouve un peu choquant qu'on crée dès l'université une guéotisation, parce que je ne vois pas de différence entre la gestion des personnes humaines, et ça a été évoqué par Cyril, dans l'économie sociale et dans les entreprises, celles que je connais tout au moins. Et sur le plan économique, on a aussi des règles qui sont assez similaires. Donc plutôt que de guéotiser dès l'université, est-ce qu'on ne pourrait pas, à tous les étudiants, offrir l'ensemble des aspects ? Ouais, c'était...
Ok. Jean-François ?
Très rapidement, vous soulevez une question extrêmement intéressante et extrêmement importante. C'est vrai qu'il s'est créé beaucoup de masters en économie sociale, économie solidaire, etc. Comme s'il y avait une profession comme ça qui allait exister. Vous voyez, comme on a eu la même chose dans le développement durable, et puis finalement il n'y a pas les emplois au bout, parce que effectivement les grandes entreprises d'économie sociale, en particulier, s'ils cherchent un commercial, ils cherchent un commercial, s'ils cherchent un directeur des ressources humaines, etc. En même temps, on peut pas s'arrêter à ça, parce que le management coopératif, c'est pas le même que celui qu'on a à France Télécom. Vous voyez, la place du capital. Non, mais écoutez, c'est important. La place du capital n'est pas la même. Alors évidemment, on a les mêmes plans comptables, mais il y a quand même des penseurs de l'économie sociale qui ont dit, mais en fait, dans une entreprise d'économie sociale, normalement, le salaire, c'est pas une charge. Vous voyez, et sur le plan éthique, et le capital, ça vient pas au bout après le bénéfice. C'est le capital qui est une charge, voyez. Donc il faut, sauf qu'on n'a pas tous les outils. Alors on en a, hein, ça dépend des secteurs, ça dépend. Il faut reprendre tout le plan d'entreprise, toute l'organisation de l'entreprise. Des expériences comme Ardelaine, évidemment, nous aident beaucoup là-dessus, parce que même la division du travail n'est pas la même. Le rôle du commercial n'est pas le même. Voyez bien que dans une mutuelle d'assurance, un bénévole est prescripteur de la mutuelle et il joue le rôle de commercial. Donc vous pouvez pas avoir le même enseignement. Alors, en même temps, vous avez raison, parce qu'on n'a pas réfléchi suffisamment, on n'a pas un corpus suffisamment abouti dans l'économie sociale, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas été référencé dans les programmes universitaires, parce qu'il y a des tas d'expériences qui ont avancé là-dessus. Bon, on pourrait développer longtemps.
Merci. Madame, alors, madame ici, un monsieur par là, un monsieur là-bas.
Je profite du temps où arrive le micro pour faire écho aussi à cette question. Nous travaillons à la région sur le futur schéma des enseignements supérieurs et de la recherche. Et donc la question de Jean-Yves permet de rebondir sur la nécessité de travailler sur un schéma des enseignements supérieurs de l'économie sociale et solidaire. Il faut vraiment s'atteler à la tâche. Les universités notamment ont pris des initiatives dans ce domaine pour mettre le pied dans la porte, pour créer des cycles, mais il n'y a pas d'ensemble organisé à la fois en région et en France.
Bonjour, Lorraine Panay, je suis consultante en relations internationales. Je voulais revenir sur un point qu'a évoqué Jean-François Drapry tout à l'heure, la dimension internationale qui est un des enjeux justement de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Je voudrais savoir justement qui sont les acteurs qui portent cette dimension actuellement, Alors qui que ce soit par secteur, par leur structure, ou voilà, que ce soit des collectivités aussi peut-être qui pourraient associer ces acteurs à leur coopération internationale. Et donc voilà, je suis intéressée par connaître des expériences éventuelles en France et en Rhône-Alpes en particulier ou dans d'autres régions. Merci.
Je vais dire quelques éléments, mais c'est vraiment un champ très complexe. L'économie sociale, elle s'est fondée au départ sur l'expérience des coopératives, hein, le corpus théorique. Et évidemment, il y a l'Alliance coopérative internationale, qui a son siège à Genève, est un acteur incontournable. Le Bureau international du travail également, parce qu'il y a un service des coopératives qui est très actif. Ensuite, donc c'est, voilà, parmi les réseaux internationaux. Au niveau européen, on a une représentation européenne de l'économie sociale. Pareil, toutes les fédérations coopératives et mutualistes ont une organisation européenne. Je ne peux pas les citer parce que c'est en cascade. Hein. Et puis ensuite, il y a des expériences remarquables, donc, sur lesquelles on ne peut pas ne pas s'appuyer, c'est-à-dire qui font autorité à l'échelon mondial. On va prendre par exemple dans la coopération de production, c'est Mondragon dans le Pays-Bas espagnol. L'expérience argentine de récupération des entreprises après la crise des années 90 est absolument incontournable aujourd'hui parce que ils ont contesté la pertinence des normes comptables IASB, de l'International Standard Board Organization, donc qui leur était imposée à l'époque. Ils ont dit, ben non, nous, si on ne peut pas récupérer avec des normes comptables qui sont les nôtres, eh bien, notre économie disparaît, en quelque sorte. L'essentiel des pays latino-américains ont des expériences remarquables. Les Québécois sont très, très en avance sur nous, sur les programmes, justement, par rapport à ce que vient de dire Cyril, les ARUC, la construction de programmes d'enseignement universitaire et de recherche en partenariat avec les organisations. En Inde, il y a une très forte organisation au niveau du crédit et de l'agriculture. Voilà, on pourrait développer, mais en même temps, si on développe beaucoup, c'est aussi parce qu'il n'existe pas. Je peux pas vous dire, il y a une confédération mondiale de l'économie sociale. Ça n'existe pas.
Et puis en complément sur la région, donc le secteur de la solidarité internationale s'interroge en Rhône-Alpes sur sa place dans l'économie sociale. C'est intéressant. Donc déjà par la porte du commerce équitable, donc il y a deux acteurs qui arrivent petit à petit à niveau régional en Rhône-Alpes, qui sont Artisans du Monde et la plateforme Equisol, et qui souhaitent clairement se positionner comme donc partie prenante de l'économie sociale. C'est pas forcément évident, à la fois pour les adhérents qui se retrouvent pas totalement, et pour un certain nombre de structures dans le commerce équitable qui ne sont pas de statut économie sociale et solidaire, ce qui renvoie à notre débat sur les entrepreneurs sociaux. Et puis la CRES elle-même est très active dans le cadre de l'Alliance coopérative internationale, de même que l'Union régionale des coopératives, l'URSCOP Rhône-Alpes.
Merci. Qui veut prendre la parole? Alors, monsieur Labin, allez, où est le micro? Vous pouvez relever la main parce que la dame ne vous a pas vu. Elle, là-bas.
Oui, Michel Adam, je suis retraité d'EDF. Madame Barras, tout à l'heure, vous avez dit que les fonds de pension ne se bousculent pas. 45% pour les salariés, 45% pour l'entreprise, 45% de dividendes. 10% pour les dividendes.
10%.
Donc on voit bien que, comme dans le secteur de l'économie et de l'entreprise, on est sur des ratios qui sont radicalement effectivement différents, ce qui pose le problème du financement, du développement des entreprises de ce secteur. Donc ma question est la suivante, c'est est-ce que pour financer le développement, voire pour financer d'une manière générale non seulement les entreprises, mais les secteurs, tous les financements doivent passer soit par l'emprunt, soit par donc des fonds propres, mais à un moment donné ils sont limités, soit par la subvention publique. Est-ce que ce problème du financement, monsieur le député, là vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, lorsqu'on dit que actuellement ça représente 10% du PIB, comment hors subvention publique, est-ce que hors subvention publique il est possible d'avoir un développement de ce secteur? Ce que je veux dire par là, en clair derrière, est-ce qu'il peut y avoir par exemple des ponts avec le secteur privé, je dirais purement privé, et comment ça se passe?
Vous voulez le dire tout? Béatrice, commence.
Je veux bien parler concrètement. Oui, effectivement, par exemple, Ardelaine a investi 1 million d'euros là, dans son nouveau projet. 1 million d'euros, où on va les trouver? Du capital, on ne peut pas en trouver parce que, justement, dans la SCOP, les salariés doivent être majoritaires au capital. Donc, on a quelques associés extérieurs, mais c'est limité à ce que nous-mêmes, en tant que salariés, on peut apporter dans le capital, puisqu'on doit être majoritaire. Et donc nous, on a mis le maxi, mais on ne peut plus, quoi. Hein. On n'a pas les moyens d'abonder au capital. On n'a pas les moyens. Donc, effectivement, on s'est tourné vers les collectivités publiques, donc qui sont intéressées à notre projet, autant l'État à travers un pôle d'excellence rurale, la région à travers un appel à projet innovation tourisme durable. Le département aussi, on peut dire que effectivement on a eu des subventions qui sont limitées aussi, puisque au maximum une entreprise peut recevoir 30% de subventions sur un investissement, pas plus. Là on a eu 20%, on est déjà bien content, merci. Donc évidemment il faut emprunter aussi, aller voir les banques. Donc on a été voir notre banque en l'occurrence c'est la NEF. Qui nous a dit, mais bien sûr, quel beau projet, je vais vous soutenir. Et on a demandé 450 000 euros. Mais il en manque. Il en manque. Donc, où on va les trouver? Les fondations. Allez, on va aller voir toutes les fondations. On a fait le tour. On a trouvé la Fondation de France, la Fondation RTE, la Fondation le Créavenir, la Fondation. On les a toutes à des hauteurs différentes. Mais effectivement, les fondations peuvent abonder sur des projets qu'elles jugent utiles en fonction de leurs objectifs. Mais ça ne suffit pas. Alors, où on va trouver l'argent? Et là, on s'est tourné, nous, dans notre esprit filière. On dit, en fait, la filière, elle commence à la ressource, à la matière première, le producteur de matière première. Et elle se termine où? Elle se termine chez le client. Depuis quelques années, en fait, on s'est dit, Ardelaine, il y a le cœur de l'activité, il y a un réseau, il y a les salariés, qui sont le premier réseau, il y a le territoire, qui est autour de nous, et il y a aussi plein de gens, encore un cercle beaucoup plus large, qui est plein de clients qui nous achètent des produits, mais ce n'est pas seulement avoir un pull parce qu'ils ont froid et qu'il n'est pas cher. C'est aussi, ils achètent aussi, ils s'intéressent aussi à cette petite entreprise. Ils ont envie de, par leur acte d'achat, la soutenir. Ils ont envie que leur argent produise des effets économiques, sociaux, culturels, tout ce qu'on veut. Ils ont une intention dans leur acte d'achat. Et ces gens-là, on a fait appel à eux déjà, et ils sont près de nous, on s'informe, on leur raconte où on en est, ce qu'on fait, etc. On a 2000 personnes parmi nos clients nous ont exprimé cette sensibilité là et donc là on leur a dit, écoutez, bonjour, là on a besoin de sous, est-ce que vous en avez? Et donc, on a émis, l'entreprise a la capacité d'émettre des titres participatifs. Des titres participatifs qui permettent justement, ce n'est pas du capital, mais c'est comme un emprunt, si on veut, mais moins cher qu'une banque, puisque donc là, pour nous, c'est du 2%. On a fait un appel de 150 000 euros, et tout de suite, il y a 80 personnes qui ont souscrit. On a fait un deuxième emprunt, deuxième titre participatif à 150 000 euros. Il est presque terminé. Il en manque un peu, là.
Avis. On va faire une quête auprès du public. Il n'y a aucun problème.
À la sortie.
Monsieur le député, vous avez regardé cette question du financement. Comment vous répondriez à la question de monsieur?
Financement, c'est un sujet qui a été effleuré par mon rapport, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, parce que le financement est divers en fonction d'abord du statut de l'entreprise. Bien évident que pour une association, le financement est celui qu'on connaît, qui est subvention, prestation, éventuellement service rendu, vente de services. Pour une coopérative, il n'y a pas de subvention, il n'y a souvent pas de prestations, et c'est que le chiffre d'affaires qui fonctionne. Donc c'est extrêmement compliqué sur le financement. Moi, ce que j'ai essayé de travailler sur mon rapport, c'est essayer de travailler sur deux volets. Le volet fonds propres, enfin, c'est-à-dire réserve ou moyens de faire face soit aux aléas économiques, parce qu'on sait bien que malheureusement on est soumis aux aléas, soit faire face à l'investissement de façon à ce que les entreprises qui veulent, ou associations d'ailleurs, qui veulent développer de l'innovation ou des nouveaux outils puissent avoir les moyens de le faire sans devoir s'agenouiller devant le banquier. Alors ça, c'est vraiment un sujet que j'ai essayé de bâtir. Et après, le deuxième volet que j'ai travaillé, c'est plutôt le financement donc associatif avec la fondation qui permettrait soit de se porter caution pour l'obtention de prêts, soit de se faire de cofinancement lors de besoins d'investissement. Et puis j'ai essayé de travailler sur, alors tout n'est pas dans mon rapport parce que j'en ai, comme il fallait, je voulais mettre un chiffre rond, j'ai mis 50 propositions, j'en ai élagué, mais j'avais des propositions notamment sur le problème des notifications de subventions qui puissent être mettre en daillis, hein, c'est-à-dire en fait on donne les notifications, en fait quand vous avez une subvention, le vote de la délibération ne suffit pas pour pouvoir obtenir un financement. Donc la notification, c'est un engagement de l'exécutif de la collectivité territoriale à payer. Et donc avec cet engagement, on pourrait aller dans une banque, si possible solidaire, qui mette à disposition les fonds immédiatement en attendant que vous ayez votre subvention. Et donc ça permet de développer un financement plus rapide des actions menées, parce que moi je connais bien les associations qui travaillent notamment dans le domaine de la politique de la ville ou de ce dispositif-là, où malheureusement les fonds d'État arrivent une fois que l'année est terminée et donc l'association a dû faire face à son action sans moyens. Donc il ne faut pas s'étonner après que la politique de la ville a du mal à fonctionner. Donc, voilà, et donc j'ai essayé de travailler sur des sujets comme ça, mais je n'ai pas de réponse précise sur cette action.
Oui. Jean-François, un mot complémentaire ?
Oui, très vite, hein, dans deux petits points. Les entreprises françaises en 2009 ont bénéficié d'environ 170 milliards de crédits d'impôt, et l'essentiel est allé aux entreprises du CAC 40, dont le taux d'imposition est le plus faible de toutes les entreprises. Le taux d'imposition baisse à mesure que l'entreprise s'agrandit. Entreprises du CAC 40 qui ont détruit 40 000 emplois au cours des 5 dernières années, pendant que 200 000 emplois étaient créés dans l'économie française, dont à peu près 20% par les entreprises d'économie sociale. Donc, il faut quand même dire les premières choses, enfin, je pense que tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant, l'économie sociale n'est pas sous perfusion, c'est plutôt l'économie, très grandes entreprises qui sont sous perfusion. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, comme vous l'avez tous constaté, on est, au cours des 20 dernières années, les inégalités entre les revenus se sont creusé de façon considérable, et on est de plus en plus dans un nouveau rapport qui est entre des personnes qui ont une épargne et des personnes qui ont des besoins de crédit. Hein, donc la voie que nous désigne Ardelaine, Béatrice, est très intéressante parce que vraiment cette question de l'épargne des ménages qui va vers les entreprises aujourd'hui, elle est essentiellement considérée par les traders. C'est les traders qui font ce travail-là, quoi. Donc l'économie sociale, elle est face à la nécessité de trouver une alternative à cette manière à la spéculation, je veux dire, dont fait l'objet l'épargne des ménages. Et donc c'est évidemment le crédit solidaire, le placement éthique, tel qu'il commence à être mis en place par des banques, et en particulier par la NEF ou le crédit coopératif.
Merci. Ajoutez-nous, on viendra. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous les intervenants.